Chapitre 5. L'écorce elfique. Nombre d'anciennes prophéties blanches relatent la trahison du catalyseur. Voici ce que dit Colum le Blanc de cet épisode. Par son amour, il est trahi, et son amour est trahi aussi. Un scribe et prophète moins connu, Gant le Blanc, y ajoute ces détails. Le cœur du catalyseur est à nu devant quelqu'un en qui il a une foi absolue. Toute confiance est donnée et toute confiance est trahie. L'enfant du catalyseur est remis aux mains de ses ennemis par quelqu'un dont l'amour et la fidélité ne sauraient être mis en question. Les autres prophéties sont plus ambiguës, mais dans tous les cas, il est sous-entendu que le catalyseur est trahi par une personne qui a sa confiance implicite. Tôt le lendemain matin, tout en mangeant des morceaux de lapin rôti, Ketriken et moi consultâmes à nouveau la carte. Nous n'en avions presque plus besoin car nous la connaissions par cœur, mais elle nous servait de support pour indiquer ce dont nous discutions. Du bout du doigt, Ketriken suivit une ligne à demi effacée sur le parchemin abîmé. Nous allons devoir retourner à la colonne qui se dresse au milieu d'un cercle, puis suivre la route d'art sur une certaine distance au-delà, jusqu'à la destination finale, je pense. Je ne tiens guère à remettre le pied sur cette route, dis-je en toute franchise. Même quand je marche à côté d'elle, cela m'épuise. Mais il n'y a pas moyen de l'éviter, j'imagine. Pas que je sache, non. Elle était trop préoccupée pour me manifester beaucoup de compassion. Je la regardais. De son abondante chevelure blonde et brillante, ne subsistait plus qu'une tresse courte, faite à la va-vite. Le vent et le froid avaient marqué son visage, gercé ses lèvres et creusé au coin de ses yeux et de sa bouche de fines rides qui s'ajoutaient aux plis soucieux de son front. Et ses vêtements étaient tachés et usés. La reine des six duchés n'aurait même pas été engagée comme chambrière à Gué de Négoce. J'eus soudain envie de lui rendre courage, mais je ne voyais pas comment faire. Aussi me contentai-je de déclarer « Nous irons là-bas et nous retrouverons vérité. » Ses yeux croisèrent les miens et elle répondit en s'efforçant d'insuffler foi à son regard et à sa voix. « Oui, nous le retrouverons. » Mais dans ses paroles, je ne perçus que du courage. Nous avions monté et démonté notre camp si souvent que la tâche ne nécessitait plus aucune réflexion de notre part. Nous agissions avec ensemble, presque comme un organisme unique, comme un clan, me dis-je. « Comme une meute !» me reprit à œil de nuit. Il me poussa la main du museau. J'interrompis mon travail pour lui gratter consciencieusement les oreilles et la gorge. Il ferma les yeux de plaisir et rabattit les oreilles en arrière. « Si ta femelle t'oblige à me renvoyer, ça me manquera beaucoup. » Je ne l'accepterai pas. « Tu crois qu'elle te forcera à choisir ?» Je refuse d'y songer pour l'instant. Ah ! Il se laissa tomber sur le flanc, puis roula sur le dos pour que je puisse lui gratter le ventre. Il dénuda ses crocs en un sourire carnassier. Tu vis dans l'instant, et tu refuses de songer à ce qui risque d'arriver. Mais moi, j'ai découvert que je ne peux guère penser qu'à ce qui risque de se produire. J'ai été heureux ces derniers jours, mon frère. Vivre avec d'autres, chasser ensemble, partager la viande. Mais la chienne hurlante avait raison hier soir. Il faut des petits pour faire une meute, et ton petit.
Je suis incapable d'y réfléchir pour le moment. Je dois penser seulement à ce qu'il me faut faire aujourd'hui pour survivre et à tout ce qui me reste à accomplir avant de pouvoir espérer rentrer chez moi.
Fitz, ça va ?
C'était Astérie. Elle me secouait par le coude. Soudain, tiré de mes réflexions, je me tournai vers elle. La chienne hurlante. Je réprimais un sourire. Ça va. J'étais avec œil de nuit.
Ah !
Elle jeta un coup d'œil au loup à ses pieds et je sentis l'effort qu'elle faisait pour comprendre ce que nous partagions. Puis elle haussa les épaules.
Prêt à partir ?
Si les autres le sont, oui. Apparemment, c'est le cas. Elle alla aider Ketriken à charger le dernier jepa. Je cherchai le fou des yeux et le vis assis, muet, sur son paquetage. Une de ses mains reposait légèrement sur un des dragons de pierre, et il avait une expression lointaine. Par derrière et sans bruit, je m'approchai de lui. « Ça va ? » demandai-je à mi-voix. Comme toujours, il ne sursauta pas, Il se contenta de tourner vers moi ses yeux pâles. Son visage exprimait un désir inassouvi, sans la moindre trace de son habituelle causticité.
« Fitz, as-tu déjà eu l'impression de te rappeler quelque chose, mais de ne rien trouver dès que tu te mettais à chercher ?»«
Parfois, oui, » répondis-je. « Je crois que ça arrive à tout le monde. »
« Non, là, c'est différent, » dit-il. « Depuis que je suis monté sur la pierre, avant-hier, et que j'ai entreaperçu le monde d'autrefois qui vivait là, j'ai sans cesse d'étranges et vagues souvenirs qui me reviennent. Lui, par exemple. »
Il flatta doucement la tête du dragon, caresse amoureuse sur un crâne reptilien en forme de coin.
« Je me rappelle presque l'avoir connu. »
Il m'adressa soudain un regard implorant.
« Qu'as-tu vu, toi, quand j'y étais ?»
J'eus un petit haussement d'épaule. On aurait dit une place de marché entourée de boutiques et remplie de gens qui faisaient leur métier. Une journée active, quoi.
« M'as-tu vu ?»
me demanda-t-il à voix très basse. Je n'en suis pas certain. Cette conversation me mit soudain très mal à l'aise. Là où tu te trouvais, il y avait quelqu'un d'autre, une femme. Elle te ressemblait dans un sens. Elle était très pâle et elle jouait les bouffons, je crois. Tu as parlé de sa couronne, sculptée en forme de coq avec la tête et la queue.
Ah !
Fitz, je n'ai guère de souvenir de ce que j'ai dit juste après. Je ne me rappelle que l'impression et la rapidité avec laquelle elle s'est effacée. L'espace d'un instant, j'ai été relié à tout, j'ai fait partie de tout.
C'était un sentiment merveilleux, comme un jaillissement d'amour, ou la vue de la beauté parfaite, ou...
Il n'arrivait plus à trouver ces mots. L'art donne ce genre d'impression, fis-je doucement. Ce que tu as ressenti, c'est son attraction. C'est à cela que les artiseurs doivent sans cesse résister, sans quoi ils s'y font engloutir.
« J'ai donc artisé ?»
murmura-t-il pour lui-même. « Quand tu t'es réveillé, tu étais en pleine extase. Tu as parlé du dragon comme de quelqu'un que tu devais présenter. Ça n'avait pas grand sens. Attends, laisse-moi me souvenir. Le dragon de Réalder, qui avait promis de t'emmener voler.
Oh, c'est mon rêve de la nuit dernière. Réalder, c'était ton nom. »
Tout en parlant, il caressait la tête de la statue, et il se produisit alors un événement des plus étranges. Ce que mon vif captait de la créature augmenta soudain, et Œil de Nuit vint d'un bond se placer à côté de moi, les poils hérissés. Ceux de Manuk s'étaient dressés eux aussi, et je reculais, m'attendant à voir la statue reprendre brusquement vie. Le fou nous regarda d'un air perplexe.
« Qu'y a-t-il ?»
Les statues nous semblent vivantes, à Œil de Nuit et à moi. Or, quand tu as prononcé ce nom, celle-ci a failli se réveiller.
« Réalder ?»
répéta le fou à titre d'expérience. Je retins mon souffle, mais ne perçus aucune réaction. Je secouai la tête et le fou me regarda.
« Ce n'est que de la pierre, Fitz, de la pierre froide et magnifique.
Tu as peut-être les nerfs un peu à vif ?» D'un geste amical, il me prit par le bras et nous rejoignîmes la piste à demi effacée. Nos compagnons étaient déjà hors de vue, à part Caudron qui nous attendait, appuyé sur son bâton et l'œil noir. Instinctivement, je pressai le pas. Quand nous parvînmes auprès d'elle, elle me prit par l'autre bras, puis, d'un signe impérieux, elle fit signe au fou de nous précéder. Nous le suivîmes, mais à moindre allure, et quand il fut assez loin devant nous, elle serra mon bras d'une poigne de fer et demanda
« Eh bien ?»
Un instant, je la dévisageai d'un œil vide, puis « Je n'ai pas encore trouvé la solution, » répondis-je d'un ton d'excuse.
« C'est évident !»
fit-elle avec sévérité. Elle se susauta un moment les dents, se tourna vers moi, les sourcils froncés, ouvrit la bouche pour parler, puis secoua vivement la tête. Cependant, elle ne me lâcha pas le bras. Je passai la plus grande partie de la journée à marcher, en silence, à côté d'elle, en réfléchissant au jeu qu'elle m'avait donné à résoudre. Je ne connais rien d'aussi fastidieux que de parcourir en sens inverse le chemin qu'on vient de suivre alors qu'on est pressé d'arriver quelque part. Cependant, nous ne nous guidions plus sur une route antique quasi invisible sous la végétation, mais sur nos propres traces, à travers la forêt marécageuse et les collines, et nous allâmes donc plus vite au retour qu'à l'aller.
Avec le changement de saison, les jours s'allongeaient et Ketriken força notre marche jusqu'à l'orée du crépuscule. C'est ainsi que, lorsque nous montâmes le camp ce soir-là, une seule colline nous séparait encore de la place de Pierre Noire. Et c'est à cause de moi, je pense, que Ketriken décida de nous faire passer une nuit de plus sur l'ancienne route. De fait, je n'avais nulle envie de dormir plus près que nécessaire du carrefour.
« Allons-nous chasser ?» demanda Œil de Nuit d'un ton avide dès que le bivouac fut installé.
« Je pars à la chasse !» annonçai-je à la cantonade.
Gaudron leva les yeux vers moi, l'air désapprobateur.
« Restez bien à l'écart de la route d'Ars !»
me prévint-elle. À ma grande surprise, le fou se leva.
« Je vais les accompagner, si ça ne dérange pas le loup. »
« Le sans-odeur est le bienvenu. »«
Cela nous fait plaisir que tu viennes avec nous. Mais tu es sûr de te sentir assez fort ?»«
Si je me fatigue trop, je peux toujours faire demi-tour, » répondit le fou.
Quand nous nous mîmes en chemin dans le crépuscule qui allait s'assombrissant, Ketriken étudiait sa carte et Gaudron prenait son tour de garde.
« Ne tardez pas trop, ou j'irai moi-même vous chercher, »
me dit-elle d'un ton menaçant.
« Et restez à l'écart de la route d'Ars !»
répéta-t-elle. Quelque part au-dessus des arbres flottait la pleine lune, et sa lumière tombait en cascade sinueuse à travers les nouvelles feuilles pour éclairer nos pas. Pendant quelque temps, nous nous contentâmes de marcher ensemble dans le sous-bois agréablement dégagé. L'essence du loup augmentait l'acuité des miens. La nuit était pleine d'odeurs de végétation, de cris de petites grenouilles et du bourdonnement des insectes nocturnes. L'air était plus vif que dans la journée. Nous tombâmes sur la sente d'un animal et la suivîmes. Le fou resta à notre hauteur sans dire un mot. J'inspirais profondément, puis expirais. Malgré tout ce qui se passait dans mon monde, je ne pus m'empêcher de remarquer.
C'est bon. Oui, c'est vrai, ça me manquera.
Il pensait aux propos d'Astérie le soir précédent, je le savais. Inutile de songer à des lendemains qui n'arriveront peut-être jamais.
Chassons, répondis-je, et nous chassâmes.
Pendant que le fou et moi continuions sur la piste, le loup coupa à travers bois pour rabattre le gibier vers nous. Nous nous déplacions en communion avec la forêt et glissions presque sans bruit à travers la nuit, laissant son alerte. Je vis un porc-épic, mais je n'eus pas envie de le tuer, et encore moins de le dépecer avec moult précautions avant de pouvoir manger. Je voulais un gibier facile ce soir. Non sans mal, je persuadais Œil de Nuit de chercher une autre proie.
Si nous ne trouvons rien d'autre, nous pourrons toujours revenir le tuer. Ces bêtes-là ne sont pas rapides,
observai-je. Il acquiesça à contre-cœur et nous nous remîmes à quêter. Sur le versant dégagé d'une colline encore chaude de soleil, Œil de Nuit repéra le mouvement d'une oreille et l'éclat d'un œil. En deux bonds, il fut sur le lapin. Son mouvement en fit détaler un deuxième qui s'enfuit vers le sommet. Je lui donnai la chasse, mais le fou me cria qu'il rentrait au camp. À mi-pente, je me rendis compte que je ne rattraperais pas l'animal. J'étais fatigué de la longue marche de la journée, et le lapin terrorisé courait pour sauver sa vie. Quand je parvins en haut de la colline, il avait disparu. Je m'arrêtai, le souffle court. Le vent de la nuit soufflait lentement entre les arbres, et j'y captai une odeur à la fois inconnue et curieusement familière. Comme je me redressais, les narines largement ouvertes, pour essayer de l'identifier, Œil de Nuit arriva en courant sans bruit auprès de moi.
« Fais-toi petit !»
m'ordonna-t-il. Sans prendre le temps de réfléchir, je me tapis au sol et jetai des coups d'œil à droite et à gauche à la recherche d'un danger.
« Non, fais-toi petit, dans ta tête !»
Cette fois, je saisis aussitôt ce qu'il voulait dire et dressai éperdument mes murailles mentales. Son flair, supérieur au mien, avait instantanément associé la vague odeur qui flottait dans l'air avec celle des vêtements contenus dans les fontes de ronces. Je me plaquai le plus possible contre la terre et vérifiai et revérifiai mes remparts intérieurs, tout en me disant que la présence de ronces dans les environs relevait pratiquement de l'impossible. La peur peut constituer un excellent aiguillon pour l'esprit, et je compris tout à coup ce qui aurait dû m'être évident depuis le début. Nous n'étions pas loin de la place du carrefour et de sa colonne noire. Les symboles gravés sur ces poteaux indicateurs ne servaient pas seulement à désigner les destinations des routes convergentes. Ils signalaient où l'on arrivait lorsqu'on voyageait à l'aide des colonnes. Là où il s'en trouvait une, on pouvait se transporter à la suivante. Une enjambée suffisait pour se rendre de l'antique cité à n'importe quel lieu marqué d'un glyphe. En cet instant même, les trois membres du clan n'étaient peut-être qu'à quelques mètres de moi. Non, il n'y en a qu'un, et il est loin de nous. Serre-toi de ton nez si tu laisses dormir ta cervelle. Me dit Œil de Nuit à la fois rassurant et cinglant. Veux-tu que je le tue ? Ajouta-t-il négligemment. Oui, s'il te plaît, mais fais attention à toi. Œil de Nuit émit un petit grognement dédaigneux. Il est plus gras que le sanglier que j'ai abattu. Il souffle et il sue rien qu'à descendre la piste. Ne bouge pas, petit frère, pendant que je me débarrasse de lui. Et silencieux comme la mort, le loup disparut dans la forêt. Je restai tapis au sol une éternité, dans l'attente d'un grondement, d'un cri, du bruit de quelqu'un qui court dans les taillis, mais rien. J'avais beau faire, je ne sentais plus la moindre trace de l'odeur. Tout à coup, je ne pus plus demeurer ainsi sans rien faire. Je me relevai et suivis les traces du loup, aussi discret et dangereux que lui. Pendant notre chasse, je n'avais guère fait attention à la direction que nous avions prise, mais je me rendais compte à présent que nous étions beaucoup plus proches de la route d'Ars que je ne le croyais, et notre bivouac aussi. Un échange d'armes parvint tout à coup, comme une musique lointaine. Je me pétrifiais, forçais mon esprit à se taire et à laisser leur art effleurer mes sens sans y répondre.
« Je suis tout prêt !»
C'était Ronce, haletant d'excitation et de peur. Je le sentis immobile en attente.
« Oh, que je n'aime pas cet endroit, mais alors pas du tout !»«
Du calme, il suffit d'un contact. Touche-le, comme je te l'ai montré, et ses murailles s'effondreront. »
Guillot s'adressa à lui comme un maître à son apprenti.
« Et s'il a un poignard ?»
Il n'aura pas le temps de s'en servir. Crois-moi, aucune défense mentale ne peut résister à ce contact, je te le promets. Tu n'as qu'à le toucher, j'arriverai à travers toi et je m'occuperai du reste.
Pourquoi moi ? Pourquoi pas toi ou Carode ?
Tu préférerais vraiment être à la place de Carode ? De toute manière, c'est toi qui tenais le bâtard en ton pouvoir et qui as eu la bêtise de vouloir le mettre en cage. Achève la mission que tu aurais dû mener à bien il y a longtemps, à moins que tu n'aies envie de subir encore une fois la colère de notre roi. »
Je perçus le frisson d'effroi de Ronce, et je me pris à trembler moi aussi, car j'avais perçu une autre présence. Royal était là. Les pensées étaient celles de Guillot, mais j'ignore comment, quelque part, Royal les entendait lui aussi. Ronce savait-il aussi clairement que moi que Royal prendrait plaisir à le faire souffrir encore ? Qu'il me tue ou non. Que le souvenir de la torture qu'il lui avait infligée était si agréable que Royal ne pouvait plus penser à lui sans se rappeler la plénitude qu'il avait alors ressentie, brièvement. Pauvre Ronce, je n'aurais pas voulu être à sa place.
Là, c'était le bâtard, trouve-le !
En toute logique, j'aurais dû alors mourir, car Guillaume m'avait découvert. Il avait capté la pensée que j'avais négligemment laissée flotter en l'air. Ma bouffée de compassion envers Ronce avait suffi. Il se mit à clabauder sur ma piste comme un molosse.
« Je le tiens !»
Suivit un instant d'immobilité tendue, le cœur cognant dans ma poitrine. J'envoyais mon vif tout autour de moi, mais ne trouvais rien de plus gros qu'une souris dans les environs. Je sentis Œil de Nuit en contrebas de moi, qui s'éloignait vite et sans bruit. Pourtant, Ronce avait dit se rapprocher de moi. Avait-il inventé un moyen de se protéger de mon vif ? À cette idée, je sentis mes genoux mollir. Quelque part, tout en bas de la colline, j'entendis le fracas d'un corps dans les halliers et un cri humain. Le loup l'a eu, me dis-je.
Non, mon frère, ce n'est pas moi.
C'est à peine si je compris la pensée du loup. Je venais de recevoir un choc d'art qui m'avait laissé étourdi sans que je puisse en apercevoir l'origine. Mes sens se contredisaient mutuellement, comme si j'étais plongé dans de l'eau et que je la ressentisse comme du sable. Sans idée bien claire de ce que je faisais, je me lançai dans une course trébuchante vers le bas de la colline.
« Ce n'est pas lui !»
Guillot, furieux et très agité.
« Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce ? »
Un silence atterré.
« C'est ce monstre, le fou !»
Soudain, une immense colère.
« Où est le bâtard ? Ronce, espèce de crétin de bon à rien ! Tu nous as tous livrés au bâtard !»
Cependant, ce ne fut pas moi mais le loup qui fonça sur Ronce. Même de la distance où je me trouvais, j'entendais ses grondements. Dans les bois sombres en dessous de moi, un loup se jeta sur Ronce qui poussa un tel hurlement d'art à la vue de ses mâchoires rapaces que Guillot en fut un instant distrait. J'en profitais aussitôt pour ériger mes murailles et me précipitais pour me joindre à Œil de Nuit dans son attaque physique contre Ronce. Il était dit que je devais être déçu. Il se trouvait beaucoup plus loin que je ne le croyais, et je ne vis même pas Ronce, sinon par les yeux du loup. Aussi gros et maladroit qu'il parut, il s'avéra excellent coureur une fois Œil de Nuit sur ses talons. Néanmoins, mon compagnon aurait fini par le rattraper s'il en avait eu le temps. Au premier bond qu'il fit, il ne saisit que le manteau de Ronce qui s'en débarrassa en tournoyant sur lui-même. À sa deuxième attaque, il arracha un bout de chausse en même temps qu'un morceau de chair, mais Ronce continua de fuir comme s'il était indemne. Œil de Nuit le vit arriver sur la place au pavé noir et se précipiter vers la colonne, la main tendue devant lui dans un geste implorant. Il plaqua sa paume sur la pierre scintillante et disparut soudain dans le pilier. Le loup raidit les pattes pour freiner et glissa sur le pavage lisse en direction du monolithe, en se ramassant sur lui-même dans une attitude protectrice, comme si Ronce s'était jeté dans un brasier. Il s'arrêta à un empan de la pierre et se mit à gronder furieusement, non seulement de colère, mais aussi de frayeur. Tous ces événements, je les suivis alors que je me trouvais à une colline de là, en train de courir en trébuchant dans le noir. Tout à coup, une vague d'art passa sur moi. Sans aucune manifestation physique, elle me jeta néanmoins à terre, le souffle coupé. Je me retrouvai étourdi, les oreilles bourdonnantes, totalement ouvert, incapable de résister si quelqu'un voulait prendre possession de moi. Je demeurai allongé au sol, pris de nausées, à demi assommé, et ce fut peut-être ce qui me sauva. Car en cet instant, je ne sentis plus aucune trace d'art en moi. En revanche, je percevais celui des autres, et leur échange d'art n'avait aucun sens. Je n'en retirais qu'une impression de terreur absolue. Puis, ils s'éloignèrent, comme balayés par le fleuve d'art lui-même, et je dus me retenir de les poursuivre, tant ce que je ressentais d'eux était stupéfiant. On eût dit qu'ils avaient été réduits en petits fragments. Leur confusion, de moins en moins perceptible, vint clapoter vaguement contre ma conscience, et je fermai les yeux. J'entendis soudain Ketriken qui criait mon nom d'une voix éperdue.
« Œil de Nuit, je suis déjà en route, rejoins-moi !»
répondit le loup d'un ton sévère, et j'obéis. J'étais couvert d'égratignures et de terre, et mon pantalon était déchiré au genou quand je parvins enfin à la yourte. Caudron m'attendait devant l'entrée. Le feu brûlait comme un signal d'alarme. À la vue de la vieille femme, les battements de mon cœur s'apaisèrent un peu. Je craignais qu'ils n'eussent été attaqués. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je, en me dirigeant à grands pas vers elle.
« Le fou !»
répondit-elle. Et puis elle ajouta.
« Il y a eu de grandes clameurs, et nous nous sommes précipités dehors. Là, nous avons entendu le loup gronder, nous avons suivi ses grondements, et nous avons découvert le fou. »
Elle secoua la tête.
« J'ignore ce qui lui est arrivé. »
Alors que je la contournais pour pénétrer sous la tente, elle me saisit le bras. Elle possédait une force étonnante pour une femme de son âge et m'obligea à la regarder.
« On vous a attaqué ? »
demanda-t-elle d'une voix tendue. « D'une certaine façon, oui. » Je lui relatais brièvement ce qui s'était passé et elle écarquilla les yeux quand j'évoquais la vague d'art. Quand j'eus fini, elle hocha la tête d'un air sinistre. Manifestement, j'avais confirmé ses soupçons.
C'est après vous qu'ils en avaient, mais c'est lui qu'ils ont attrapé. Il ne sait absolument pas se protéger, et si cela se trouve, ils le tiennent encore.
Quoi ? Mais comment ? Fis-je abasourdi.
Rappelez-vous ce qui s'est produit sur la place. Vous avez été liés par l'art, tous les deux, même si ça n'a duré qu'un instant, par la force de la pierre et la force de ce que vous êtes. Ça a laissé une espèce de chemin. Plus deux personnes se lient souvent, plus le rapport entre elles se renforce. Le temps passant, ce rapport devient un lien, semblable à celui d'un clan. Ces liens, les artiseurs peuvent les visualiser s'ils les cherchent. Souvent, ce sont comme des portes de derrière, des issues non gardées qui permettent l'accès à l'esprit d'un artiseur. Cette fois, cependant, c'est du fou. « Et non de vous qu'ils se sont emparés !»
Devant l'expression de mon visage, elle lâcha mon bras, et j'entrai dans la tente. Un petit feu brûlait dans le brasero. Ketriken était agenouillé près du fou et lui parlait à voix basse d'un air grave. Astérie ne le quittait pas des yeux, assise, pâle et immobile sur ses couvertures, tandis que le loup faisait sans cesse le tour de la yourte déjà bondée, les poils hérissés. J'allais vivement me mettre à genoux à côté du fou,
mais la vue de ses traits me fit reculer. Je pensais le trouver inconscient et inerte. Or, tout au contraire, il était rigide. Ses yeux étaient ouverts et bougeaient par à-coups, comme s'il était témoin de quelque terrible combat qui nous restait invisible. Je lui touchai le bras. La raideur des muscles et le froid de la chair m'évoquèrent un cadavre. « Fou, » dis-je. Rien dans son attitude n'indiqua qu'il m'eût entendu. « Fou !» criai-je en me penchant sur lui. Je le secouai par les épaules, d'abord doucement, puis plus violemment, mais en vain.
« Gardez votre main en contact avec lui et artisez-le, » m'ordonna Caudron d'un ton bourru. « Mais attention, s'il le tienne toujours, vous vous mettez en danger vous aussi. »
À ma grande honte, je dois avouer que j'hésitais un instant. Malgré toute l'affection que je portais au fou, je redoutais toujours Guillot. Enfin, une seconde et une éternité plus tard, je posai ma main sur son front.
« N'ayez pas peur, »
me dit Caudron bien inutilement. Ce qu'elle ajouta faillit me paralyser.
« S'ils le tiennent encore, ils ne tarderont pas à emprunter le lien qui vous rattache à lui pour s'emparer de vous aussi. Vous n'avez pas le choix. Vous devez les combattre à partir de son esprit. Allez-y à présent. »
Elle plaça la main sur mon épaule et l'espace d'un instant, je fus pris de vertige. C'était la main de Subtil qui puisait en moi l'énergie de l'art. Puis Caudron me donna une petite tape rassurante. Je fermai les yeux, sentis le front du fou sous ma paume et j'abaissai mes murailles. Le fleuve d'art roulait comme en crue et je tombai dedans. Un instant pour m'orienter. J'éprouvai une seconde de terreur en sentant Guillot et Ronce aux extrêmes limites de ma perception. Quelque chose provoquait chez eux une grande agitation. Je m'écartai d'eux comme un fourneau brûlant et rétrécis mon point de concentration. Le fou, rien que le fou. Je le cherchais et faillis le trouver. Oh, il était plus qu'étrange et davantage encore. Il fuyait, m'évitait comme une carpe dorée dans un bassin plein d'algues, comme les mouches brillantes qui dansent devant les yeux quand on a été ébloui par le soleil. Autant vouloir attraper le reflet de la lune sur un étang immobile à minuit que tenter de saisir cet esprit lumineux. Lors de brefs éclairs de lucidité, je percevais sa beauté et sa puissance. Je comprenais ce qu'il était et m'en émerveillais. Et l'instant suivant, cette compréhension avait disparu. Soudain, avec une perception intuitive digne du jeu des cailloux, je sus ce que je devais faire. Plutôt que d'essayer de l'attraper, je l'entourais. Sans faire le moindre effort pour l'envahir ou le capturer, j'englobais tout ce que je voyais de lui et le tins à l'écart de tout mal. Cette tactique me rappela mes premières leçons d'art. Vérité l'avait souvent appliquée pour m'aider à me contenir en moi-même quand le courant d'art menaçait de m'éparpiller. J'affermis le fou tandis qu'il se regroupait en lui-même. Je sentis soudain une main fraîche se refermer sur mon poignet. « Arrête, » fit-il doucement. « S'il te plaît, » dit-il encore, et je m'étonnais qu'il crût nécessaire de rajouter cette formule. Je me retirai de lui et ouvris les yeux. Puis je battis des paupières et, à ma grande surprise, je frissonnais sous l'effet de la sueur glacée dont j'étais couvert. Le fou ne pouvait pas paraître plus pâle qu'il ne l'était naturellement, mais son regard et sa bouche avaient une expression incertaine, comme s'il n'était pas sûr d'être réveillé. Mes yeux croisèrent les siens et j'eus presque l'impression d'avoir conscience de son essence. Il existait en effet un lien d'art entre nous, ténu comme un fil d'araignée, mais bel et bien là. Si mes nerfs n'avaient pas été aussi sensibilisés par ma recherche, je ne l'aurais sans doute même pas perçu.
« Ce n'était pas un plaisir, » fit-il à mi-voix.
« Je regrette, » répondis doucement. « Je craignais qu'il ne te tienne, alors je suis allé te chercher. » Il agita faiblement la main.
« Oh, il ne s'agit pas de toi, je parlais des autres. »
Il déglutit comme s'il avait le cœur au bord des lèvres.
« Ils étaient en moi, dans mon esprit, dans mes souvenirs, et ils cassaient tout. » Il souillait tout comme des enfants odieux qui n'obéissent à aucune règle.
Ses yeux devinrent vitreux. Était-ce Ronce ? Demandai-je d'une voix douce.
Ah oui, c'est ça. C'est son nom, bien qu'il s'en souvienne à peine maintenant. Guillot et Royal se sont emparés de lui pour user de lui à leur gré. Ils sont entrés en moi à travers lui en pensant avoir trouvé. »
Il se tut un instant.
« Enfin, je crois. Que puis-je savoir de tout cela ?»«
L'art permet d'étranges intuitions. Ils n'ont pas pu s'emparer de votre esprit sans laisser transparaître une bonne part du leur, »
expliqua Caudron de mauvaise grâce.
Elle enleva une petite casserole pleine d'eau fumante du brasero et reprit à mon intention.
« Donnez-moi votre écorce elfique !»
Je tendis aussitôt la main vers mon paquetage sans pouvoir m'empêcher de remarquer d'un ton acerbe.
« Je croyais que cette plante était dangereuse, d'après vous. »«
Elle l'est !»
répondit-elle sèchement.
« Mais pour les artiseurs. Dans son cas, elle peut lui fournir la protection qu'il est incapable de s'assurer lui-même. Ils essaieront à nouveau, j'en suis sûr. » S'ils peuvent l'envahir, ne fût-ce qu'un instant, ils se serviront de lui pour mettre la main sur vous. C'est une vieille astuce. »
Je n'en avais jamais entendu parler, dis-je, en lui remettant mon paquet d'écorce elfique. Elle fit tomber quelques copeaux dans une chope et y ajouta de l'eau bouillante, après quoi elle fourra calmement ma réserve d'écorce dans son propre paquetage. Manifestement, ce n'était pas de la distraction de sa part, et je renonçai à réclamer mon bien. C'était inutile.
« Comment se fait-il que vous en sachiez si long en matière d'art ?»
lui demanda le fou d'un ton ironique. Il avait retrouvé en partie sa personnalité.
« Peut-être ai-je appris en écoutant au lieu de poser sans cesse des questions indiscrètes ?»
répliqua-t-elle d'un ton cassant.
« Et maintenant, buvez-moi ça »
ajouta-t-elle comme si elle considérait le chapitre comme clos. Si je ne m'étais pas senti aussi inquiet, j'aurais trouvé comique de voir le fou se faire clouer le bec avec autant d'efficacité. Il prit la chope, mais me regarda par-dessus le bord.
Que s'est-il passé, vers la fin? Il me tenait et tout à coup, tout n'a plus été que tremblement de terre, déluge et feu à la fois.
Il plissa le front.
Et puis, j'ai disparu, comme éparpillé. Je ne me retrouvais plus moi-même. Ensuite, tu es arrivé.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer ce qui est arrivé ce soir ? Demanda Ketriken d'un ton légèrement agacé. Je m'attendais que Caudron réponde, mais elle garda le silence. Le fou baissa sa chope de tisane.
C'est difficile à expliquer, ma reine. Imaginez deux brutes qui font irruption dans votre chambre, vous tirent de votre lit et se mettent à vous secouer tout en vous appelant par un nom qui n'est pas le vôtre. Quand ils se sont aperçus que je n'étais pas le Fitz, leur fureur contre moi n'a fait que croître. À cet instant, un tremblement de terre s'est déclenché, ils m'ont lâché et j'ai dégringolé plusieurs volets d'escalier. C'est une image, naturellement.
Ils t'ont lâché ?
Fis-je ravi. Je me tournai aussitôt vers Caudron.
Ils ne sont donc pas aussi astucieux que vous le craignez.
La vieille femme me regarda d'un œil noir.
« Ni vous autant que je l'espérais !»
marmonna-t-elle d'un ton sinistre.
« L'ont-ils lâché, ou bien une explosion d'art les y a-t-elle obligés? Et si c'est le cas, qui en est l'auteur ?»«
Vérité, » répondis-je, saisi d'une subite certitude. Soudain, je compris tout. Ils ont aussi attaqué Vérité ce soir, et il les a repoussés.
« De quoi parlez-vous ? »
demanda Ketriken de sa voix de reine. « Qui a attaqué mon roi ? Que c'est Caudron de ceux qui s'en sont pris au fou. »
Je la rassurai aussitôt. « Rien de personnel, madame, je vous l'assure. »«
Taisez-vous donc !» me dit sèchement Caudron. « Ma reine, j'en ai la connaissance intellectuelle, si vous voulez, de qui a étudié, mais ne peut rien mettre en pratique. Depuis que le prophète et le catalyseur ont été un instant unis, lors de l'épisode de la place, je craignais qu'existe entre eux un lien que les artiseurs puissent retourner contre eux. Mais le clan ignore la situation, ou bien quelque chose la distrait ce soir. Peut-être la vague d'art dont Fitz a parlé.
Cette vague d'art, vous pensez que Vérité pourrait en être l'auteur ? Ketriken s'était mise à parler de façon animée, et ses joues avaient repris des couleurs.
Je ne connais personne d'autre qui possède une telle puissance, répondis-je.
Il est donc vivant ? Murmura-t-elle. Il est vivant !
Peut-être. Fit Caudron morose. Celui qui déchaîne ainsi son art peut se tuer lui-même. De plus, ce n'était peut-être pas du tout Vérité. Il pouvait s'agir d'un vain effort de Guillot et de Royal pour atteindre Fitz.
Non, je vous l'ai dit, ça les a balayés comme paille au vent.
Et moi, je vous le répète, peut-être se sont-ils détruits eux-mêmes en cherchant à vous tuer.
Je crus que Kétriken allait protester, mais la reine et Astérie la considéraient, les yeux écarquillés, stupéfaite devant la connaissance que dévoilait Caudron sur la science de l'art.
J'apprécie vraiment que vous m'ayez averti,
fit le fou avec une courtoisie caustique. Je voulus me défendre. Je ne savais pas, mais encore une fois Caudron répondit à ma place.
Vous prévenir n'aurait eu d'autre résultat que de fixer votre esprit sur cette éventualité. Prenons cette comparaison. Il a fallu tous nos efforts combinés pour maintenir Fitz sur la route à la fois concentré et sain d'esprit. Il n'aurait jamais survécu à son voyage dans la cité si les corps selfiques ne lui avaient engourdi les sens. Pourtant, nos poursuivants empruntent la route et se servent souvent des colonnes d'art. À l'évidence, leur pouvoir dépasse largement celui de Fitz. Ah, que faire ? Que faire ?
Nul ne répondit à cette question qui s'adressait manifestement à elle-même. Elle posa soudain sur le fou et moi un regard accusateur.
« Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Le prophète blanc est le catalyseur et vous êtes à peine sorti de l'enfance, à peine adulte, sans formation à l'art, toujours à faire des plaisanteries et à souffrir de peine de cœur. Et c'est vous qui devez sauver le monde. »
Le fou et moi échangeâmes un regard et je vis qu'il s'apprêtait à répondre. Mais à cet instant, Astérie claqua des doigts.
« Voilà de quoi faire une chanson !» s'exclama-t-elle, transfigurée de bonheur. « Pas un chant héroïque plein de guerriers musclés, non. Le chant de deux personnes armées de la seule force de leur amitié, chacune dotée d'une loyauté indéfectible à un roi, et ceci dans le refrain.
« À peine adulte, quelque chose. Ah. »
Le fou croisa mon regard, puis baissa les yeux sur lui-même avec une expression sans équivoque.
« À peine adulte ? J'aurais dû lui faire voir. »
fit-il à mi-voix. Et malgré tout, même malgré l'air mécontent de la reine, j'éclatai de rire.
« Oh, cessez donc !»
nous réprimanda Caudron, avec un tel découragement dans la voix que je retrouvai aussitôt mon sérieux.
« L'heure n'est ni aux chansons, ni aux espiègleries. Êtes-vous trop bêtes tous les deux pour vous rendre compte du danger que vous courez, du danger auquel nous expose votre propre vulnérabilité ?»
Je la vis sortir à contre-cœur mon écorce elfique de son paquetage et remettre de l'eau à bouillir.
« Je ne vois pas quoi faire d'autre !»
dit-elle à Kétriken d'un ton d'excuse. « Quel est votre plan ?» demanda la reine.
« Droguer au moins le fou. Ça l'insensibilisera contre les attaques de nos ennemis et leur dissimulera ses pensées. »
« Mais l'écorce elfique ne fonctionne pas comme ça » protestai-je.
« Ah non !»
Caudron se retourna d'un bloc vers moi.
Alors pourquoi l'emploie-t-on traditionnellement dans ce but précis? Donner à un bâtard royal assez jeune, le produit peut détruire tout potentiel d'art chez lui. Ça s'est produit en plusieurs occasions.
Je secouai obstinément la tête. Je m'en suis servi des années pour récupérer mes forces après avoir artisé. Et vérité aussi, or cela n'a jamais...
Douce et dame miséricordieuse, s'exclama Caudron. Dites-moi que vous me racontez des histoires, je vous en supplie.
Pourquoi vous mentirais-je? Les corps selfiques revitalisent l'organisme, même si on peut se sentir pris de mélancolie après l'avoir utilisé. J'en apportais souvent à Vérité dans sa tour d'art pour lui redonner des forces. J'hésitais soudain. L'atterrement qui se lisait sur les traits de Caudron était trop sincère. Qu'y a-t-il? Demandai-je doucement.
Parmi les pratiquants de l'art, « l'écor selfique est connu comme un produit à éviter, »
répondit-elle à mi-voix. Cependant, aucun de ces mots ne m'échappait, car chacun sous la tente paraissait avoir retenu son souffle.
« Elle coupe l'utilisateur de l'art, si bien qu'il ne peut plus artiser lui-même, ni être contacté par d'autres à travers son brouillard. Elle a la réputation d'empêcher la croissance de l'art, voire de la détruire chez les jeunes, et chez les plus vieux, d'empêcher son développement total. »
Elle me regarda avec des yeux pleins de pitié.
Vous deviez avoir un don puissant pour avoir conservé même un semblant d'art.
Ça ne peut pas être. commençai-je d'une voix défaillante. Mais elle m'interrompit.
« Réfléchissez. Avez-vous constaté une augmentation de votre puissance d'art après en avoir bu ?»«
Et monseigneur Vérité, » intervint brusquement Kétriken. Gaudron haussa les épaules à contre-cœur, puis s'adressant à moi.
« Quand a-t-il commencé à en prendre ?»
J'avais du mal à me concentrer sur ses propos. Tant d'éléments apparaissaient sous un jour différent. Les corps elfiques m'avaient toujours débarrassé de la migraine qui me martelait les tempes après une longue séance d'art. Mais je n'avais jamais essayé d'artiser tout de suite après. Vérité, si, je le savais. Mais avec quel résultat? Je l'ignorais. L'aspect erratique de mon talent pour l'art pouvait-il être la conséquence de mon usage de l'écorce? La conscience me frappa comme un immense éclair qu'Imbre avait fait une erreur en nous en donnant à Vérité et à moi. Imbre avait fait une erreur. J'ignore pourquoi. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'Imbre pût avoir tort ou se tromper. C'était mon maître. Il lisait, étudiait et connaissait toutes les traditions. Mais on ne lui avait jamais enseigné l'art. Bâtard comme moi, on ne lui avait jamais enseigné l'art. Fils chevalerie! Le rappel à l'ordre de Kétriken me ramena brusquement à la réalité. Autant que je sache, Vérité a commencé à en prendre dans les premières années de la guerre, à l'époque où c'était encore le seul artiseur qui put nous défendre contre les pirates rouges. À ma connaissance, jamais il n'avait employé l'art avec autant d'intensité et ne s'en était jamais trouvé aussi épuisé, si bien qu'Imbre a décidé de lui donner de l'écorce elfique pour le revigorer. Gaudron cligna les yeux à plusieurs reprises.
« Inutilisé, l'art ne se développe pas, » dit-elle comme pour elle-même. « Utilisé, il grandit et commence à s'affirmer et on apprend presque instinctivement les nombreux usages auxquels on peut l'employer. »
Sans m'en rendre compte, je m'étais mis à acquiescer doucement à ses propos. Ses yeux se plantèrent soudain dans les miens et elle poursuivit sans prendre de gants.
Votre croissance à tous les deux a certainement été bridée par l'écorce. Vérité, en tant qu'homme fait, a pu se remettre. Peut-être son art s'est-il épanoui depuis le temps qu'il n'a plus touché à cette plante, tout comme vous, apparemment. En tout cas, il semble avoir maîtrisé seul cette route.
Elle soupira.
Mais je crains que nos poursuivants ne s'en soient jamais servis et que leur talent dans l'usage de l'art n'ait grandi et surpassé le vôtre. Vous êtes donc placé devant un choix aujourd'hui, fils chevalerie, et vous seul pouvez décider. Le fou n'a rien à perdre à prendre ce produit. Il ne sait pas artiser, et cela empêchera peut-être le clan de le retrouver. Mais vous, je puis vous en donner aussi, et cela vous rendra insensible à l'art. Nos ennemis auront du mal à vous atteindre, et vous encore plus à artiser. Peut-être serez-vous plus en sécurité ainsi, mais encore une fois, vous contrarierez votre talent. En quantité suffisante, l'écorce elfique peut les détruire complètement. Et vous êtes le seul qui puissiez choisir. »
Je baissai les yeux sur mes mains, puis les levai sur le fou. Encore une fois, nos regards se croisèrent. Avec hésitation, je tendis mon art vers lui à tâtons. Je ne ressentis rien. Peut-être était-ce encore mon talent erratique qui me jouait des tours, mais il me paraissait probable que Gaudron avait raison. L'écorce elfique que le fou venait d'ingurgiter l'avait rendu insensible à mon art. Tout en parlant, Gaudron avait retiré la casserole du feu. Sans un mot, le fou lui tendit sa chope et elle y laissa tomber une pincée de l'écorce amère avant de verser l'eau bouillante. Puis, elle se tourna vers moi sans rien dire. Je regardais les visages qui m'entouraient, mais n'y trouvais aucune aide. Je pris une chope dans la vaisselle et vis le visage ridé de Gaudron s'assombrir. Ses lèvres se pinçaient, mais elle ne me fit aucune réflexion. Elle plongea simplement la main dans la poche d'écorce en s'efforçant d'atteindre le fond, où le produit n'était plus que poudre. En attendant, je regardais l'intérieur de ma chope vide, puis je jetai un coup d'œil à Gaudron. « Vous dites que l'explosion d'art a pu les détruire. » Elle secoua lentement la tête.
« Je n'y compterai pas trop. »
Je ne pouvais compter sur rien. Rien n'était certain. Alors je reposai ma chope et m'enfouis sous mes couvertures. Je me sentais soudain extrêmement fatigué et effrayé. Guillot parcourait les environs à ma recherche. J'avais la possibilité de me cacher derrière l'écorce elfique, mais cela ne suffirait peut-être pas à le tenir en échec. Et peut-être même, cela affaiblirait-il encore mes défenses, déjà minces, contre lui. Tout à coup, je me rendis compte que je ne fermerais pas l'œil de la nuit. « Je prends le premier tour de garde, » dis-je en me relevant.
« Vous ne devriez pas rester seul, »
dit Caudron d'un ton grognon. « Son loup veille avec lui, » répondit Ketrickan avec confiance. « Il peut aider Fitz comme personne à combattre ce prétendu clan. » Je me demandais comment elle le savait, mais n'osais pas l'interroger. Je pris mon manteau et allai me tenir près du feu mourant, l'œil aux aguets, attendant la suite comme un condamné à mort.